Aujourd'hui dans la compagnie, troisième moment de notre série consacrée au cinéaste Stanley Kubrick, 1928-1999.
La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'était un homme très pessimiste et son œuvre ne l'est pas moins. Il a montré la sauvagerie de la guerre aussi bien que la fracture entre les sexes par des images d'une très grande sophistication. Il est le cinéaste du cerveau et son esthétisme n'est jamais vain. Tout cela, nous le voyons ici. Depuis lundi, nous parlons de Stanley Kubrick. Lundi, où nous avons tenté de donner des repères biographiques et des indications sur la personnalité de ce grand cinéaste, c'était avec Baptiste Roux. Mardi, avec Michel Chion, nous avons fait un tour dans les principales œuvres de Kubrick et les thématiques récurrentes de sa filmographie. Enfin, demain, nous évoquerons d'abord la musique de ses bandes originales. Ce sera avec Brigitte Gauthier, qui évoquera également son film Shining. Et puis, en seconde partie, nous nous quitterons en parlant d'Eyes Wide Shut, son dernier opus. C'est Thierry Jousse qui nous en parlera. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour continuer à analyser cette filmographie, mais cette fois en compagnie d'un philosophe, nous sommes avec Philippe Fraisse, enseignant donc de philosophie. Il écrit également sur le cinéma dans la revue Positif. On lui doit un livre sur le réalisateur Terrence Malick intitulé « Un jardin parmi les flammes » publié aux éditions Rouge Profond et également le livre « Le cinéma au bord du monde, une approche de Stanley Kubrick » paru en 2010 dans la collection L'Infini des éditions Gallimard. Bienvenue à tous, voici la compagnie des œuvres.
J'ai remarqué que de nombreux critiques, après un certain temps, se tiennent à une idée fixe sur certains cinéastes. Ils peuvent éventuellement en changer. Mais en général, ils adorent ou ils détestent en bloc. La psychologie de masse de la critique est difficile à interpréter. Mes films ont toujours produit cela. Il y a toujours eu un groupe pour ne pas les aimer. Et il y a de nouvelles raisons à chaque fois. Et on n'arrive jamais à déterminer la raison de fond.
Stanley Kubrick interrogé par Michel Simon en 1975. Bonjour Philippe Fraisse.
Bonjour.
Alors Kubrick avait conscience de dérouter la critique, ça on vient de l'entendre. C'est vrai qu'on peut peut-être pas si facilement expliquer ses films. Est-ce que c'est pas tout simplement l'une des choses qui montre que c'est un cinéaste de la profondeur, le fait qu'on ne puisse pas comme ça expliquer simplement et de manière univoque ses films?
Je crois que la réception d'une œuvre est vraiment conditionnée par un certain type d'attente. Et les films de Kubrick étaient souvent très très déceptifs. La réception des films comme Full Metal Jacket, comme Eyes Wide Shut, a été effectivement difficile. Le Shining aussi, ça a été difficile. Disons qu'il y avait autour des films une rumeur qui était entretenue par un souci de marketing. Et cette rumeur souvent était déçue. C'est-à-dire Kubrick n'était pas là où on croyait qu'il était. Je crois que la caractéristique du cinéma de Kubrick, c'est que c'est un cinéma qui ne s'inscrit pas de façon évidente dans l'histoire des formes. C'est très très difficile de dire d'où vient ce cinéma, où il va et quel cinéaste en particulier il a influencé de façon majeure. C'est plus facile maintenant avec le recul, avec 20 ans de recul, mais à l'époque c'était pas facile du tout d'identifier ce cinéma. C'est un cinéma qui est un peu en dehors de l'histoire des formes et c'est un cinéma qui toujours jouait avec l'attente du public, mais jouait un jeu de cache-cache qui fait que Kubrick, bien entendu, ne voulait pas flatter le public, ne voulait pas donner au public ce que le public attendait. Et parmi ce public, il y a bien sûr le public savant, le public des critiques, qui lui aussi était déçu parce qu'il ne savait pas comment interpréter les œuvres.
Mais vous, au fur et à mesure de vos découvertes des films de Kubrick, vous pouvez peut-être nous dire d'ailleurs comment vous les avez découverts ces films. Est-ce que vous avez été déçu parfois ?
Non, je n'ai pas été déçu. Surpris, dérouté, mais jamais déçu. Jamais déçu à partir, effectivement, des grands films. Bon, pour moi, Kubrick, c'est un cinéaste qui s'invente véritablement avec Docteur Folamour en 1964. À partir de ce moment-là, effectivement, on a une succession d'œuvres qui me semble magistrale, surprenante et jamais décevante.
C'est à l'adolescence que vous l'avez découvert ?
Oui. À l'adolescence, je me suis intéressé pendant quelques mois à la science-fiction, donc j'avais lu le récit de Clark, qui avait été écrit par Clark après sa collaboration avec Kubrick. Et connaissant le livre, j'avais eu le désir de voir le film, et bien entendu, le film m'avait beaucoup surpris, peut-être beaucoup déçu par rapport à ce que Clark avait écrit, puisque Clark est un écrivain qui finalement pratique une science-fiction très optimiste, très technophile, très rationaliste, alors que bien entendu, Kubrick n'est ni technophile, ni rationaliste, ni optimiste.
Non.
Je pense pas qu'il soit pessimiste non plus, mais...
Quelle nuance voyez-vous entre ne pas être optimiste et ne pas être pessimiste non plus ?
Le réalisme, la lucidité, c'est-à-dire un cinéma qui essaie de se poser à la hauteur d'une situation de crise généralisée qui est la situation du XXe siècle, qui est l'ère de la bombe, qui est l'ère des camps de concentration, qui est l'ère des camps d'extermination, qui est l'ère de l'achèvement d'un cycle qui a peut-être commencé avec le XVIIe siècle, d'une volonté d'arraisonnement de la nature, d'arraisonnement du matériau humain qui montre ses limites en termes de morale, en termes d'éthique. Et je crois que cette question-là, Kubrick, est extrêmement sensible. C'est un cinéma de la crise. Je ne crois pas que ce soit un cinéma pessimiste. Les derniers mots du cinéma de Kubrick, ce sont les mots prononcés par Nicole Kidman à la fin d'Eyes Wide Shut, c'est, je ne parle pas anglais, I do love you et fuck. Donc ce sont littéralement
juste avant, il y a aussi un dialogue qui est qu'est-ce qu'on fait maintenant, on va s'aimer pour toujours,
oui.
Et Nicole Kidman répond non, pas pour toujours,
oui.
Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant, fuck.
Oui.
Donc il y a quand même un peu de pessimisme aussi à la fin de Eyes Wide Shut.
Une certaine lucidité sur la précarité des choses, sur le caractère éphémère des... peut-être du réel, le caractère changeant du réel.
Alors Kubrick est déroutant, hein, il a dérouté la critique. Vous aussi, vous nous déroutez un peu avec le cinéma au bord du monde, mais c'est pour ça aussi que vous êtes passionnant dans ce livre. Vous nous déroutez quand vous dites le cinéma de Kubrick est presque aussi beau que les arbres. Qu'est-ce que ça veut dire ça ?
Il y a quelque chose dans le cinéma de Kubrick de monumental, quelque chose de sidérant. Alors la sidération, c'est une forme de stupeur ou pas ? Enfin, étymologiquement, c'était une maladie liée à l'influence nocive des astres, notamment Saturne, donc effectivement, que l'on pourrait rapprocher de la mélancolie. Les images de Kubrick ont quelque chose de sidérant, quelque chose qui nous confine au mutisme, parce qu'on ne sait pas du tout quoi en dire, et je crois que c'est ce qui déroute les critiques qui doivent bien écrire sur les images, mais qui ne savent pas quoi écrire. Des images aussi monumentales, c'est-à-dire des images, en fait, de la présence. Lorsqu'on est face à certaines images de Kubrick, on a la sensation d'être en présence de quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Il y a plus qu'une énigme, il y a un mystère. Et je crois que les films de Kubrick sont des espèces de dispositifs esthétiques pour produire des images présence. Mais bien entendu, dans toute présence, il y a son absence. Dans toute présence, il y a une énigme. Dans toute présence, il y a un mystère. Et je crois que Kubrick est passé maître dans cette pratique des images comme pure présence, qui ensuite, bien entendu, permettent la prolifération des interprétations, mais ce sont surtout des présences qui vont nous interroger, qui vont nous questionner dans notre intimité, dans notre position par rapport au monde, et ce sont des images qui ne nous aident pas, ce sont des images qui ne nous disent pas quoi penser, ce sont des images qui font penser. C'est là la différence peut-être entre Kubrick et d'autres cinéastes qui sont plus philosophes, qui ont un propos. Je pense que Kubrick est avant tout un expérimentateur. C'est quelqu'un qui Par exemple, je pense qu'en 1964, lorsque Kubrick se lance dans l'aventure de 2001, il n'a strictement aucune idée de ce à quoi ressemblera son film. Il arrive au résultat par décantation progressive d'un certain nombre d'idées qui sont expérimentées, puis refusées, d'autres idées qui par contre vont être apportées. Et je crois que le premier spectateur qui a été surpris par le film, c'est Kubrick lui-même, lorsqu'il le voit fini enfin en 1968.
J'ai quand même envie de revenir à la comparaison que vous faites avec l'arbre. L'arbre, c'est les racines, l'arbre, c'est l'évidence, l'arbre, c'est la vie, et l'arbre, c'est aussi ce qui se porte vers le ciel. Est-ce que c'est ça aussi le cinéma de Kubrick, c'est-à-dire quelque chose qui va plus profond et plus haut que ce qu'on voit projeté sur l'écran?
Je crois. Un cinéma qui nous appelle à la métamorphose. Kubrick est un joueur d'échecs. Les échecs sont un jeu où, lorsque les pions arrivent sur la dernière rangée, ils se métamorphosent. Je crois que les mises en scène kubrickiennes sont des mises en scène qui décrivent les progressions terriblement logiques, les progressions rationnelles, les progressions qui peuvent sembler d'une logique presque folle, de personnages qui vont jusqu'au bout d'un destin, jusqu'au bout d'une fatalité, jusqu'au bout d'une force. Et puis, in fine, il y a une métamorphose. Et je crois qu'effectivement, la puissance du cinéma de Kubrick, c'est de fabriquer des images qui font penser et des images qui nous appellent à la métamorphose. Je me rappelle le poète Rilke disait « change ta vie ». Je crois que au fond, le propos du cinéma kubrickien n'est pas un propos thématique sur notre monde, sur notre actualité ou notre modernité. C'est un propos beaucoup plus radical. Changeons notre vie.
Donc c'est une expérience.
C'est une
expérience. Quand on est un spectateur d'un film de Kubrick, on n'est pas le même après l'avoir vu qu'avant, parce que notre cerveau, c'est un cinéaste du cerveau, on ne cesse de le répéter, notre cerveau a été très légèrement modifié par le questionnement du film.
Commotionné. Il y a une forme de commotion provoquée par les images. Ensuite, on ne sait pas où cette commotion peut nous mener. C'est une expérience, mais pour faire une expérience, il faut être deux. Il faut que le spectateur accepte effectivement de voir une œuvre qui ne s'inscrit pas facilement dans l'histoire du cinéma, de voir une œuvre qui n'est pas, par ses caractéristiques esthétiques, facilement identifiable. Il faut que le spectateur accepte tout simplement de garder les yeux grands ouverts devant un artisan de l'image.
Parce que je ne crois pas grand fermé comme
voilà. Je crois que Kubrick est vraiment un artisan de l'image. C'est quelqu'un qui, en notre époque, qui me semble-t-il par bien des aspects, est une époque iconoclaste, c'est-à-dire une époque où le pouvoir essaie en permanence de récupérer les images et de réduire les images à des discours, Kubrick invente une façon de fabriquer des images qui fait de ces images un champ de réalité qui est totalement irréductible au discours et au verbe. Et en ce sens-là, l'image retrouve sa fonction originelle, qui est peut-être de nous détacher du monde, de nous permettre d'émerger à la conscience de nous-mêmes, et bien sûr, l'image, si on l'accepte, nous métamorphose.
It is a little bit like a detective looking for clues.
Effectivement, je suis un peu comme un détective à la recherche d'indices.
Barry Lyndon, I created a picture file of.
Pour Barry Lyndon, j'ai constitué un dossier de
thousands of drawings and paintings.
De milliers de documents iconographiques.
You know that we could have wanted.
Des dessins, des peintures dont nous pourrions avoir besoin.
I think I destroyed.
Je crois que j'ai mis en pièces.
Every art book. That you can buy in a bookshop by tearing the pages out and
tous les livres d'art disponibles dans le commerce pour classer les reproductions de tableaux. J'ai essayé de me rapprocher de la peinture, en fait.
The costumes were all copied from paintings.
Les costumes étaient tous copiés d'après des tableaux.
I think this has become, you know, the only, you know, a respectable, in fact, the only sensible way to do historical costumes. It's stupid to have a quote a designer interpret the 18th century as they may remember it from art school or from a few pictures they get together.
Il aurait été stupide de demander à un modéliste d'interpréter le 18e siècle d'après ses souvenirs scolaires ou d'après quelques images.
Nobody could have the feeling, even if they academically studied it. No, nobody could have a feeling for designing clothes out of their own period.
Parce que personne ne peut avoir assez d'intuition pour dessiner les costumes d'une autre époque.
La compagnie des œuvres et vous êtes bien sur France Culture. C'est intéressant, Philippe Fraisse, ce rapport de l'intuition avec l'hyper-préparation dont parlait à l'instant en archive Stanley Kubrick. Il est à la fois dans l'hyper-intelligence et dans l'hyper-sensible. Il y a son cerveau qui fonctionne sur ces deux plans, à la fois dans le ressenti et dans la compréhension.
C'est assez émouvant d'entendre Kubrick parler de modélisme. Je crois qu'effectivement, Kubrick est un formidable documentariste. D'ailleurs, il a commencé sa carrière de cinéaste en tant que documentariste. Chacun de ses films est effectivement très richement documenté. Effectivement, ça, c'est la dimension rationnelle, avec des procédures de documentation extrêmement sophistiquées, une passion pour l'archive, pour l'épuisement des documents, l'épuisement des sources, et en même temps une intuition, c'est-à-dire on va laisser sa chance à la matière documentée pour voir finalement comment ça peut fonctionner. J'ai toujours conçu Stanley Kubrick comme certains peintres. Dans Barry Lyndon, les références à Gainsborough sont flagrantes. Gainsborough, lorsqu'il peignait des paysages, faisait avant, dans un premier temps, une maquette. Il faisait une maquette, le lac était reproduit avec des bris de miroir, les arbres avec des morceaux de brocoli, bon, des légumes, des plantes. Et ensuite, cette maquette était éclairée et elle devenait un sujet, un objet onirique, recréé par le peintre. Et je crois que Kubrick travaille de la même façon, un très très grand travail de documentation, il fabrique un modèle réduit, en ce sens-là on est assez proche des démarches de la science, où on modélise un phénomène pour essayer de le comprendre, et une fois que le modèle réduit est fabriqué, on essaie de voir comment il fonctionne, et on laisse sa chance au modèle réduit, c'est-à-dire on laisse voir, on essaie, c'est la dimension intuitive que vous évoquez, on essaie de voir comment le modèle réduit va peut-être toucher certaines parties de notre inconscient, certaines parties de notre psyché, et va provoquer une rêverie. Je crois que le cinéma de Kubrick est un cinéma qui invite bien entendu à la rêverie.
Donc c'est un peintre, vous qui avez aussi travaillé sur Terrence Malick, qui est aussi un cinéaste très plastique.
Oui.
Il y a cette dimension, peut-être aussi chez David Lynch, que vous connaissez probablement très bien également. Voilà, ce sont des plasticiens aussi à l'œuvre.
Des plasticiens, des sensoriels.
Et des visuels aussi.
Visuels. Pour Kubrick et Lynch, je crois que Kubrick et Lynch sont très très proches. Je crois qu'il y a des thématiques qui sont vraiment... Il me semble que par bien des aspects, Lynch poursuit certaines thématiques kubrickiennes, notamment dans la série Twin Peaks. Je crois qu'on a des cinéastes très 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 sensoriels et qui relèvent peut-être de ce qu'on appelle en psychologie l'hypnagogique, c'est-à-dire ce moment où on passe de la veille au sommeil, ce moment où finalement le surmoi ou l'ego, les constructions de la personnalité qui sont héritées de la culture, du processus de civilisation, ont tendance à s'effacer, à baisser un peu les défenses. Et à ce moment-là, ce moment d'endormissement est un moment où on recueille inconsciemment des sensations, où inconsciemment on retrouve des voix que nous avons entendues dans la journée et qui vont servir de matériaux pour le voyage de la nuit qui est le moment du rêve. Et je crois que par exemple, ce que l'on appelle maintenant l'épisode Stargate dans 2001, c'est-à-dire ces 9 minutes où l'astronaute Dave Bowman, au-delà de Jupiter, passe dans une porte des étoiles qui le mène dans un non-lieu. Je crois que on peut voir ça comme un voyage résurrectionnel, comme un voyage onirique, comme finalement un passage de la veille au sommeil avec tout ce que ça peut entraîner comme découverte de nos propres profondeurs.
Et alors tout cela dans un décor qui n'est pas toujours et qui est même assez peu naturel. Il y a la nature dans Barry Lyndon, il y a une sorte de nature dans 2001, c'est une nature très étrange parce que c'est l'espace.
Oui.
Mais sinon on est quand même souvent en intérieur. Quel est le rapport d'après vous de Stanley Kubrick avec la nature en tant que telle ?
Alors Kubrick est vraiment le cinéaste citadin par excellence. Tout à l'heure, vous parliez de Terrence Malick. Autant j'imagine Terrence Malick, effectivement, aimant se promener dans la nature. Terrence Malick, randonneur, avec ses chaussures, son sac à dos et son appareil photo. Autant il est impossible d'imaginer Kubrick dans la nature. Kubrick est un citadin. Pour lui, la nature, c'est l'au-delà de la ville. C'est quelque chose qui est de l'ordre du fantasme. Si on regarde le début de Shining, les premières images de Shining, nous sommes dans le Montana, je crois que c'est Glacier Park. Dès que l'on arrive sur le parking de l'hôtel Overlook, en fait c'est le Timberline Lodge qui se trouve en Oregon. Dès que Jack entre dans l'hôtel, en fait on retrouve les décors d'un hôtel qui se trouve en Californie dans le parc de Yosemite. Et on comprend au cours de l'histoire qu'on est dans le Colorado. Donc cette nature, Chez Kubrick, c'est une nature qui est à la fois fragmentée, recomposée par une logique qui est une logique onirique, qui n'a absolument rien à voir avec une logique rationnelle, tridimensionnelle d'un espace newtonien.
La géographie, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas.
Pour Stanley Kubrick.
Chez Kubrick, il n'y a pas de géographie. On est en permanence dans un lieu fantasmatique qui ressemble, et tout à l'heure je faisais allusion à David Lynch, qui ressemble à la loge de Twin Peaks. C'est-à-dire un lieu où le temps est aboli, où l'espace est aboli, mais un lieu effectivement où il y a métamorphose parce que nous sommes en contact, nous sommes comme branchés sur les forces les plus profondes de notre être.
Alors, c'est comme un exilé,
oui.
Kubrick. D'abord, on sait qu'il vivait quand même un petit peu enfermé aussi, qu'il sortait pas beaucoup, il aimait pas
oui.
tant que ça voyager. Or, dans votre livre, vous expliquez que pour bien voir un paysage, il faut marcher dans ce
oui.
paysage, ce que Kubrick vraisemblablement ne faisait pas. C'est un exilé dans le ventre d'une machine.
Oui.
C'est ça qui l'intéresse finalement, c'est l'artificiel, la perfection de l'artificiel de la machine, Philippe Fraisse.
La technique est un des grands soucis de Kubrick, parce que je crois qu'il voit dans la technique non pas une idole ou un repoussoir, il voit dans la technique une des grandes forces qui agissent sur l'être humain. Je crois que Kubrick est très conscient, à partir du moment où il travaille sur Docteur Folamour et sur 2001, il est très conscient de vivre l'époque du transhumanisme, enfin de ce qu'on n'appelait pas encore le transhumanisme. Et d'ailleurs, je pense que la science-fiction, avec 2001, on dit souvent qu'avec 2001, la science-fiction atteint une forme de maturité. Elle atteint une forme de maturité quand, effectivement, elle s'empare de façon parfaitement consciente et explicite des perspectives transhumanistes. Je crois que ce qui intéresse Kubrick dans la technique, effectivement, Kubrick est très technophile dans son quotidien. Il adore tous les gadgets, il adore être en relation avec l'ensemble de la planète. Souvent, on dit, avant Internet, il y avait Stanley Kubrick. C'est une forme de boutade qui montre qu'effectivement, c'est quelqu'un qui aime l'objet technique. Mais c'est quelqu'un qui sonde l'objet technique, c'est-à-dire il voit très bien que l'objet technique va transformer fondamentalement l'essence de l'homme, ou du moins l'essence du rapport que l'homme a avec le monde et son existence.
Et ça, on le voit bien dans le rapport des cosmonautes avec l'ordinateur HAL 9000
oui.
dans 2001 Odyssée de l'espace.
Hello HAL, do you read me? Hello HAL, do you read me? Do you read me, HAL? Do you read me, Hal?
Allô, Carl, réponds, s'il te plaît. Carl, est-ce que tu me reçois? Carl, est-ce que tu me reçois?
Affirmatif, Dave. Je vous reçois 5 sur 5.
Je te prie d'ouvrir la porte extérieure A.
Je regrette, Dave. Cela m'est malheureusement impossible.
Qu'est-ce qui ne marche pas?
Je crois que vous savez aussi bien que moi ce qui ne marche pas.
Qu'est-ce que tu entends par là, Carl?
Cette mission est trop importante pour moi. Je ne puis tolérer que vous la mettiez en péril.
Je ne sais pas du tout ce que tu veux dire, Carl.
Je sais que Frank et vous aviez l'intention de me déconnecter. Je regrette, mais je ne puis absolument pas courir ce risque.
Mais qu'est-ce qui a pu te donner cette idée-là?
Dave, en dépit des précautions minutieuses que vous preniez dans la sphère pour m'empêcher de vous entendre, j'ai pu observer le mouvement de vos lèvres.
Pas bien, Carl. Dans ce cas, je rentrerai par les côtés.
Dans le casque de votre scaphandre.
Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that.
La compagnie des œuvres sur France Culture. Est-ce qu'on peut aller plus loin sur cette analyse, Philippe Fraisse, du rapport à la beauté de cette perfection machinique? Qu'est-ce que, dans cet extrait-là qu'on vient d'entendre, dans le rapport, dans le dialogue entre cet humain et ce presque humain qu'est l'ordinateur, qu'est-ce qui passionne Stanley Kubrick selon vous?
L'ordinateur n'est qu'une machine, ce n'est qu'un appareil. Et ce qui est très étonnant dans cette scène, c'est qu'effectivement nous pouvons être émus par la cessation du fonctionnement d'un appareil. Donc ça nous interroge. Ça nous interroge sur ce que nous sommes nous-mêmes. À l'époque de l'intelligence artificielle, beaucoup de cognitivistes, beaucoup de neurologues ont tendance à réduire l'intelligence humaine à un appareil qui fonctionne avec des programmes. Je crois que cette scène, effectivement, où il y a la confrontation entre l'astronaute et un appareil, est une scène très très étrange, parce que c'est une scène qui, en fait, brouille les limites entre l'humain et l'artefact. C'est-à-dire, c'est une scène qui remet en cause la définition même de l'humain. Traditionnellement, l'humain est défini, depuis Aristote, comme un animal doué de raison. On voit très bien ici qu'il n'y a plus la moindre animalité. Il y a peut-être une rationalité, mais c'est une rationalité très particulière. C'est une rationalité procédurière, c'est une rationalité froide, une rationalité de fonctionnaire, une rationalité où tout semble codifié à l'avance. Et ce qui reste, une fois que nous avons vu cette scène et que nous en avons été émus, c'est une interrogation sur qu'est-ce qui me différencie, moi, d'une machine. C'est-à-dire, au fond, ce qui intéresse Kubrick, je crois, c'est essayer de nous poser la question « Où est l'âme ?»
Est-ce que c'est la même question qu'il pose dans Docteur Folamour, par exemple, où la bombe est une sorte de machine? Il y a des bombardiers aussi. Vous aimez beaucoup les bombardiers. Vous dites à un moment dans votre livre qu'on devrait comparer toute œuvre d'art contemporain à un bombardier B-29 et voir, en les mettant à chaque fois l'un à côté de l'autre, ce qui est le plus beau.
Oui.
Et on sent que vous préférez toujours le bombardier quand même.
Je crois que c'est une boutade. C'est l'intelligence humaine s'épanouit dans l'objet technique. Kubrick lui-même, lorsqu'il réalise 2001, est très très sensible aux découvertes de l'anthropologie, notamment celle de Raymond Dart dans les années 20, où on découvre pour la première fois l'australopithèque, où on commence à penser que le berceau de l'humanité est en Afrique. Avec le recul, on oublie que pendant très très longtemps, au début du XXe siècle, on pensait que le berceau de l'humanité était en Angleterre. Il y a une imposture célèbre, l'homme de Piltdown, un crâne humain avec un maxillaire, je crois, d'orang-outan, qui était présenté comme l'ancêtre de l'humanité, blanc évidemment, anglais de surcroît, exposé dans le prestigieux Muséum d'histoire naturelle de Londres de 1910 à 1953. Alors effectivement, lorsque Kubrick, qui est juif, s'intéresse aux origines de l'humanité, il veut s'intéresser, il veut mettre en avant une thèse qui déracialise les débats. Et il me semble que son rapport à l'origine est un rapport éminemment politique. Il essaie de mettre en scène la façon dont on pouvait se représenter des australopithèques dans les années 60. Et bien entendu, il est aussi influencé par les thèses des disciples de Raymond Dart, qui a découvert l'australopithèque. C'est-à-dire, ces thèses affirment qu'il y aurait une origine profondément technicienne de l'intelligence humaine. Ces thèses ont été popularisées dans les années 60 aux États-Unis par un journaliste, Robert Hardrey, qui a proposé l'idée du singe tueur. L'homme serait un singe tueur. Il y aurait donc une forme d'adéquation native entre l'intelligence humaine et l'objet technique. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde un biface, on ne peut qu'être étonné par déjà le souci esthétique qui est sans doute lié à son efficacité. Souvent, les armes sont très très belles. Si on définit la beauté comme adéquation entre la forme et le fond.
D'ailleurs, dans Full Metal Jacket, il y a un rapport
érotique,
très érotique, avec le fusil, en fait, des jeunes militaires, des appelés.
Oui.
C'est pas le seul exemple où il y a de l'érotisme dans la machine. Il y a aussi des accouplements de vaisseaux spatiaux.
Oui.
Il y a, au début du Docteur Folamour, je crois,
une
scène aussi un petit peu érotique entre un avion
et son ravitailleur. Oui. Mais cette question n'est pas... Kubrick la développe pour nous interroger toujours sur la question de l'identité. Qui sommes-nous? C'est une question qui est pas spécifiquement kubrickienne. C'est une question que l'on retrouve chez d'autres très grands cinéastes qui, à mon avis, sont les maîtres de Kubrick. Il en parle peu. Quand il en parle avec beaucoup de mauvaise foi. Ce sont Chaplin et Eisenstein. Je crois que Chaplin et Eisenstein ont aussi développé de façon abondante la thématique de l'accouplement de l'homme et de la machine. Dans les temps modernes, tout le monde se souvient que Charlot est avalé par la machine. Tout le monde se souvient que Charlot fait corps avec la machine. Et lorsqu'on regarde les films d'Eisenstein, qui pourtant esthétiquement ne se situent absolument pas dans la lignée chaplinienne, beaucoup de scènes sont des scènes littéralement d'accouplement avec la machine. Et je crois qu'Eisenstein va encore plus loin que Kubrick dans l'accouplement entre l'homme et la machine, parce que chez Eisenstein, cet accouplement entre l'homme et la machine est vécu sous une forme euphorisante.
Est-ce que cet accouplement entre l'homme et la machine, il n'est pas spécifiquement chez Kubrick homo-érotique? Ça paraît clair dans Full Metal Jacket,
oui.
Mais peut-être aussi dans d'autres films.
Jusqu'à Eyes Wide Shut, oui. Effectivement.
Oui, alors à Eyes Wide Shut, il y a cette scène assez peu compréhensible où on voit le gardien d'hôtel qui oui. est très efféminé, mais il n'y a aucune raison pour qu'il le soit. Mm-hmm. C'est une scène comme ça qui tombe au milieu du film
oui.
et on peut se demander pourquoi, puisque narrativement ça n'a aucun sens,
oui.
pourquoi est-ce que Kubrick a voulu que ce soit quelqu'un qui soit tellement efféminé? Vous avez une réponse à cette question?
Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Je crois que la... Tout à l'heure, je parlais de décantation à propos de la réalisation de 2001, parce que l'exemple, effectivement, est flagrant. Je crois que Kubrick laisse une... Contrairement à ce qu'on pense, on imagine Kubrick comme, effectivement, quelqu'un qui est... On emploie les adjectifs perfectionnistes, quelqu'un qui serait obsédé par le contrôle. Je crois que Kubrick n'a pas d'idée préconçue du résultat auquel il va arriver.
Et pourtant, il a pensé à tout, donc il ne fait pas ça non plus par hasard.
Il pense à tout sur le moment. Pas a priori. Et je crois qu'il laisse beaucoup de place aux suggestions des acteurs et aussi aux suggestions, dans une certaine mesure, des techniciens. Il veut contrôler le film, mais il laisse le film se faire. Lui, il est d'une certaine façon celui qui dirige, mais le processus de création se fait de façon presque indépendante.
Chef, oui, chef !
Mon cul, je n'entends rien !
Chef, oui, chef !
Comment tu t'appelles, sac à foutre?
Chef, je m'appelle Brown, chef!
Mon cul, à partir de maintenant, tu t'appelles Blanche-Neige. Est-ce que ça te plaît, ce nom-là?
Chef, oui, chef!
Ben, y a quand même un truc que tu vas pas tellement aimer, Blanche-Neige. On te servira pas ton poulet frit et tes pastèques quand tu viendras bouffer à la cantine.
Chef, oui, chef!
Est-ce que c'est toi, John Wayne? Ou est-ce que c'est moi?
Qui a dit ça? Qui est le tordu qui a dit ça? Quelle est l'infecte petite folle perdue, l'espèce d'enculé de communiste qui vient de signer son arrêt de mort? C'est personne, hein? C'est votre marraine de mes couilles, hein? À foutre de foutre, vous me ferez du parcours en crevé la gueule ouverte! Vous me ferez du parcours en tête et du petit lait par le fion! Alors ça vient de toi, charogne, de petit salopard, hein?
Chef, non, chef!
Espèce de paquet de merde, t'as une chic gueule de vermine, bien sûr que c'est toi!
Chef, non, chef!
Chef, c'est moi, chef!
Vous écoutez La Compagnie des Œuvres et vous avez reconnu évidemment Philippe Fraisse, cet extrait du début de Full Metal Jacket.
Oui.
On avance progressivement, et c'est un petit peu aussi le parcours que vous faites dans votre livre, vers le rapport de Stanley Kubrick avec la question du mal. Diriez-vous que ce film-là le met en scène davantage que les autres?
Davantage peut-être pas. Mais de façon plus émouvante, puisque nous suivons le parcours d'un jeune homme qui, à la fin du film, affirme qu'il n'a plus peur. Donc c'est un récit initiatique. Ce qui n'était pas le cas de Docteur Follamour, ouais. Ce qui n'est pas le cas d'Orange Mécanique, même si dans Orange Mécanique, il y a aussi, bien sûr, la problématique de la guérison.
Enfin, l'instructeur est quand même une sorte d'incarnation du mal, quand même, sur Terre, non? Moins peut-être que d'autres personnages, mais à son échelle, il est pas mal.
Il est un rouage de la machine. Un rouage de... Nous sommes à l'époque du management. Le management, effectivement... Moi, je pense que, par exemple, un film comme Docteur Follamour est un film sur le management. C'est-à-dire l'organisation scientifique du travail, avec la parcellisation des tâches, la déresponsabilisation, le fait que chaque individu à son poste a une vue extrêmement courte du projet global, de ce fait ne peut pas porter de jugement de valeur sur le projet global.
Docteur Follamour a une vision quand même d'ensemble, non?
Oui. Le docteur Follamour, c'est Werner von Braun. Lui, il vient du régime qui a porté le management à sa perfection. Enfin, à sa perfection. Qui, du moins, l'a expérimenté dans le domaine du massacre et de la tuerie.
Oui, il est explicitement nazi ou...
Il est explicitement nazi, oui. Oui, oui. Et, mais je crois que le nazisme est aussi une réussite du point de vue du management. Et le sergent Hartmann, est un rouage de la machine. Je ne sais pas si le sergent Hartmann est vraiment méchant. Il fait bien son travail, il le fait consciencieusement, comme un bureaucrate, comme un fonctionnaire. Je suis moi-même fonctionnaire, donc je suis moi-même un rouage.
Votre travail très consciencieusement,
très consciencieusement, avec effectivement la même brièveté de vue, la même conscience professionnelle que le sergent Hartmann. Je ne sais pas si on peut parler de bien ou de mal au sens moral. Le propre du management de cette époque où effectivement les tâches sont fragmentées, c'est que la morale est annihilée. Alors on est au-delà du bien et du mal. Pour paraphraser Nietzsche, je pense que Kubrick n'a jamais ouvert un livre de Nietzsche, mais on est vraiment au-delà du bien et du mal. On est au-delà de... Le kantisme est définitivement révolu. Le kantisme propose une morale et propose une pensée qui, au XXe siècle, où tout est objet de management, est totalement inefficace et abstrait.
Donc vous nous expliquez là que presque tout le cinéma de Stanley Kubrick découle finalement du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, de l'hitlérisme, des camps de concentration.
De la bombe.
De la bombe qui a failli aussi déclencher une troisième guerre mondiale. Et donc, on a envie de se rappeler à ce moment-là, ce qui est assez peu rappelé en règle générale, c'est que Stanley Kubrick est juif. Est-ce que tout cela fait sens, tout d'un coup, et trace dans l'ensemble de ces films une nouvelle piste de compréhension, selon vous, Philippe Fraisse, et quelle serait-elle ? Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu tout cela ?
La conscience de la crise est antérieure à la Deuxième Guerre mondiale. La conscience de la crise, c'est les tranchées, c'est la Première Guerre mondiale. C'est déjà la faillite de la civilisation humaniste, c'est la guerre industrielle, c'est le traitement du soldat comme un matériau, c'est ce que l'on voit déjà dans les Sentiers de la gloire. Bon, la Deuxième Guerre mondiale va en rajouter une couche. C'est-à-dire, effectivement, la conscience de la crise va devenir universelle, et c'est quelque chose que l'on retrouve chez les philosophes, que l'on va retrouver chez des penseurs très importants comme Heidegger, Günther Anders, que l'on va retrouver chez Junger. Il y a cette conscience, finalement, d'une urgence, cette conscience d'un monde qui s'écroule.
Qui rejoint aussi une préoccupation écologique, qui existe peut-être chez Kubrick, d'ailleurs, je ne sais pas.
Je ne sais pas, moi non plus. Kubrick avait beaucoup d'animaux domestiques, mais entre un animal domestique et un animal sauvage, il y a un tel abîme.
Enfin, en tout cas, vous dites que dans les films de Kubrick, même les moutons jouent très bien.
Oui, les moutons jouent bien, le vent joue bien, les arbres jouent bien leur rôle aussi dans Barry Lyndon, c'est très très impressionnant. Oui,
comment vous expliquez ça?
Je ne sais pas.
Donc, pour reprendre le fil de ce que vous disiez sur le rapport au nazisme, à quel moment finalement est-ce que cette thématique elle émerge dans l'œuvre de Kubrick ? Est-ce qu'elle est là dès le début pour vous en filigrane, ou est-ce qu'il faut vraiment attendre le docteur Folamour ?
Il me semble avec le docteur Folamour. Avec le docteur Folamour, effectivement, le personnage incarné par Peter Sellers, effectivement, est une incarnation possible de Werner von Braun. Kubrick regarde Disney, comme tout le monde, dans les années 50. Werner von Braun, à partir de 1956, présente des émissions sur la télé que Disney monte à partir de 1954. Et dans ces émissions, Werner von Braun explique au grand public américain comment on va porter des hommes dans l'espace et puis ensuite dans la Lune. Le projet transhumaniste est déjà là. Le projet transhumaniste, c'est véritablement un projet qui a aussi des origines dans le nazisme. Le nazisme est une nébuleuse contaminante, une nébuleuse en ce sens où ce n'est pas une idéologie claire, ce n'est pas une idéologie que l'on puisse facilement définir, contrairement par exemple au communisme, qui est quelqu'un beaucoup plus clair, où il y a un substrat philosophique sérieux. Dans le nazisme, il n'y a pas de substrat philosophique, c'est une blague sinistre. Mais c'est une...
On est dans la survie de l'espèce avec le nazisme.
Peut-être, effectivement, dans la question de la survie. La question de la survie, Ilias Kanity a consacré un très grand livre à la question de la survie. Je crois qu'effectivement, Dans un monde d'urgence comme le nôtre, dans un monde d'urgence à la fois politique, environnementale, dans un monde de dissolution des valeurs, dans un monde de crise, la question de la survie ou la question de la position personnelle, comme disait Junger, est une question absolument essentielle. Ce qui peut expliquer aussi le flirt de certains intellectuels de grande envergure avec le nazisme. Je crois que le nazisme n'est pas facilement identifiable. On peut y voir effectivement un résumé du XXe siècle. Son souci d'efficacité, son souci d'aller au-delà du bien et du mal, son souci finalement d'appliquer les principes du management à tous les domaines de la vie courante, même les domaines de la vie intime, pourquoi pas les domaines de la reproduction, je crois que c'est ce qu'évoque le docteur Folamour. Et alors bien entendu Kubrick, en tant que juif, en tant que petit-fils d'émigré, est très sensible,
en tant que juif non pratiquant, tout de même.
Non pratiquant, bien sûr, et je pense non croyant.
Vous êtes en train de nous alerter là sur quelque chose. Vous êtes en train de nous alerter, Philippe Presse, sur le monde contemporain quand vous dites que finalement la bureaucratisation, l'excès la réaction qu'on peut avoir aussi dans un monde écologiquement instable comme c'est le cas aujourd'hui, tout cela pourrait nous emmener vers l'abîme. Et c'est déjà un peu ce dont Kubrick a la prescience.
Oui, un cinéma vraiment au bord de l'abîme, un cinéma au bord du monde. Et oui, je crois que vraiment il y a cette conscience de la catastrophe possible.
Mais qu'est-ce qui vous a poussé à construire ça ?
Chez nous, il y avait des gens qui étaient contre. Mais nous ne pouvions plus faire face aux dépenses imposées par la course aux armements, la course à l'espace et à la paix aussi. En même temps, la population demandait encore plus de banylon et encore plus de machines à laver. Notre machine infernale nucléaire ne coûte qu'une petite fraction de ce qu'on dépensait pour la défense en une seule année. Le facteur décisif a été quand nous avons appris que votre pays travaillait aux mêmes ordres de recherche. On craignait d'être en retard d'une machine infernale.
C'est parfaitement absurde, je n'ai jamais approuvé aucun projet de ce genre.
Nous avions lu ça dans les New York Times.
Docteur Folamour, avons-nous un projet semblable en chantier ?
Un instant, s'il vous plaît, monsieur le président. Et ça, c'est l'autorité que je possède en tant que directeur de recherche mise au point de l'armement. J'ai confié l'an dernier une étude de ces projets à la société Plant. En me fondant sur les données du rapport, j'ai conclu que cet enjeu était inadéquat comme moyen de dissuasion pour des raisons qui aujourd'hui ne sont que trop évidentes.
Vous estimez donc qu'il est possible qu'il possède vraiment un tel engin ?
Monsieur le Président, les moyens techniques requis sont largement à la portée de n'importe quelle puissance nucléaire, même de la plus petite. Il suffit qu'elle ait la volonté de le faire.
Vous écoutez la Compagnie des œuvres et vous êtes bien sur France Culture. Nous parlons de Stanley Kubrick avec vous, Philippe Fraisse. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'esthétique qui s'incarne dans ces films de tout ce qu'on vient de dire là ? Parce que, on l'a dit, Stanley Kubrick, c'est un visuel, c'est un plasticien. Comment ces images sont composées pour représenter tout ce qu'on vient de dire là, toute l'angoisse finalement qu'il portait en lui, et puis toute la tragédie du XXe siècle qui se retrouve dans ses films.
C'est un photographe, Stanley Kubrick. C'est un photographe, il était fils de médecin, ses parents auraient aimé qu'il fasse des études brillantes, mais il n'a pas fait des études brillantes, il n'avait pas les notes nécessaires pour pouvoir entrer à l'université, donc il a fait de la photographie. Mais il faisait de la photographie, nous les Européens, quand on pense photographie, bien sûr on pense Cartier-Bresson, le Leica, des petits appareils. Lui, il fait la photographie avec une chambre Graflex qui s'appelle Speedgraphic. La caractéristique d'une chambre, c'est un appareil qui est très très encombrant, ça pèse 2,5 kg, 3 kg, on peut faire deux photos, puis ensuite il faut changer le châssis. Et la caractéristique d'une chambre surtout, c'est que la platine qui porte l'objectif est indépendante du corps dans lequel on glisse les châssis. Ce qui fait qu'en fait, ça permet de redresser les perspectives, et lorsque par exemple on photographie un monument, au lieu d'avoir un effet de pyramide tronquée lorsqu'on lève l'appareil vers le monument, on a la façade du monument qui véritablement est parallèle au plan du film. Et de ce fait, l'esthétique qui est produite par une photographie à la chambre est une esthétique de la frontalité, une esthétique de la présence pure. et une esthétique qui effectivement excède ce que l'œil humain peut voir, parce que la capacité de résolution du plan film, le fait que l'on puisse redresser les perspectives, le fait également que l'on puisse faire la mise au point grâce au basculement des corps de la chambre du premier plan jusqu'au dernier plan, ce que ne fait pas l'œil humain, donne une image qui excède la vision naturelle. Et c'est ce que j'essayais un petit peu de décrire tout à l'heure, ou de nommer tout à l'heure, en parlant d'images monumentales. Ce sont des images qui nous mettent face à une présence. Et je pense que Kubrick, finalement, est très très attaché à fabriquer des images qui excèdent l'œil, peut-être pour essayer de nous porter au-delà du regard, vers quelque chose qui serait la vision. Puisque regarder, c'est pas la même chose que avoir une vision. Mmh. Avoir une vision, c'est être confronté à un ensemble de sensations, de commotions qui sont bouleversantes et qui peuvent être métamorphosantes. Le regard a toujours quelque chose qui est de l'ordre de la maîtrise. Lorsque l'œil regarde, finalement, l'œil est un prolongement de la main ou la main est un prolongement de l'œil. Avec Kubrick, il y a l'articulation entre la main et l'œil qui est rompue parce que, en tant que photographe, il a pratiqué la photographie pendant des années avec des appareils qui sont des appareils qui favorisent comme ça une esthétique monumentale et ça explique aussi une partie de la réticence de la critique par rapport à l'esthétique kubrickienne. Nous sommes habitués, quand on pense photographie, on pense Cartier-Bresson, on pense effectivement photographie documentaire, photographie point de vue, photographie regard, rien de tel chez Kubrick.
Mais Barry Lyndon, c'est aussi une esthétique monumentale. Est-ce qu'on n'est pas quand même dans certains de ses films, Lolita peut-être aussi,
oui,
plus près des personnages, plus près de leur, je dirais pas de leur intériorité parce qu'on ne la pénètre jamais réellement, mais tout de même plus près d'eux?
Oui, mais il me semble que la monumentalité n'empêche pas la proximité avec, j'allais dire, les modèles, avec les personnages. De grands photographes américains comme Richard Avedon travaillent avec la chambre, font des portraits absolument bouleversants de leurs modèles. Et je crois que Kubrick, effectivement, cherche une image monumentale et sidérante. Ça ne l'empêche pas de faire une image qui soit une image à hauteur d'homme. Tout à l'heure, je parlais de Gainsborough. Gainsborough, au XVIIIe siècle, était entré en conflit avec l'Académie des Beaux-Arts de Londres parce que, quand il peignait des paysages, l'Académie voulait accrocher le paysage au-dessus de la ligne du regard dans les galeries d'exposition. Et Gainsborough disait « Non, je veux que, même si les tableaux sont grands de dimension, les tableaux doivent être à hauteur de spectateur. » Et Gainsborough disait « Parce que dans mes tableaux, il y a une lumière tendre. » Lorsqu'on regarde Barry Lyndon, effectivement, on a une esthétique qui, à mon sens, est héritière de cette esthétique monumentale. Et en même temps, la lumière que développe Kubrick avec son chef-op John Alcott sur Barry Lyndon est une lumière profondément tendre. Je crois que jamais au cinéma on ne s'est rapproché du pastel, on ne s'est rapproché de couleurs pigmentaires très 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 douces qu'avec Barry Lyndon.
Parce qu'on sait qu'il n'utilisait quasiment que la lumière bougies naturelle, qui était enfin pour les scènes de nuit,
oui,
parce que pour les scènes de jour évidemment il y a la lumière du jour, à part quand même, dit-il dans une archive, une sorte d'éclairage un tout petit peu global. Mais c'est vrai que c'est, comme vous le dites, une très grande tendresse par rapport à cette idée même de ce que c'est que la lumière.
Oui, une très grande tendresse pour nos personnages. Pour les personnages de ces films. Je crois que c'est un peu le paradoxe de l'esthétique kubrickienne. Une esthétique froide, sidérante et monumentale, mais où finalement il y a une place pour le pathétique. Et une place véritablement pour les personnages. Un des grands apports du livre de Michel Chion sur Kubrick, c'est justement d'avoir beaucoup insisté sur la dimension très, très humaniste de son regard. Kubrick n'a jamais un regard... il ne juge pas ses personnages. Le sergent Hartmann n'est pas jugé.
Il est désenchanté quand même à la fin, Kubrick ?
Je ne crois pas. C'est un artiste qui croit, vraiment, qui a cru jusqu'au bout à la puissance de l'art. La puissance de l'art, si l'art a bien une finalité, c'est de nous libérer de toutes les forces aliénantes qui sont mises en jeu par le pouvoir. À une époque, le XXe siècle, où le pouvoir s'est considérablement accru, je crois que les philosophes sont à peu près d'accord sur ce constat, il est très très difficile d'échapper aux raies du pouvoir. Les images de l'art peuvent peut-être nous secourir.
Pour revenir sur l'esthétique nazie,
reprise sciemment par Kubrick dans certains de ses films. Il faut citer, c'est d'ailleurs vous qui le faites dans votre livre, le film célèbre de Leni Riefenstahl, Le Triomphe de la Volonté, qui relate le congrès nazi de 1934. Oui. Et donc Kubrick s'est plus qu'inspiré finalement pour tourner certains plans du Docteur Follamour.
Oui, le début de Docteur Follamour, effectivement, est une reprise des premiers plans du film de Leni Riefenstahl.
Oui. Ça, c'est aussi très très signifiant dans le cadre de votre démonstration. Vous rappelez aussi que, alors je crois que c'est sa femme qui était la nièce du réalisateur du
Juif. Oui, la nièce de Veit Harlan, qui était effectivement un cinéaste entièrement compromis avec le nazisme. Pendant très longtemps, Kubrick a voulu réaliser un film sur le nazisme, et pendant très longtemps, il a cherché comment aborder la question de la Shoah, de la destruction des Juifs d'Europe. Il a contacté Isaac Singer dès les années 70, il a essayé de travailler avec Louis Bigley dans les années 90, plusieurs projets qui finalement ont été avortés. Et pendant très longtemps, Kubrick a pensé écrire une histoire qui se passait dans le cadre du cinéma allemand sous le Troisième Reich. Donc effectivement, il y a des éléments biographiques qui sont évidents et qui ont un rapport avec sa femme.
Oui. Est-ce que, à la fin, l'absence d'idéologie du film kubrickien, ça n'est pas ce qui lui donne toute sa force. Ça rejoint un petit peu la première question pour ouvrir, qui a ouvert notre émission. Alors d'abord, est-ce que vous êtes d'accord qu'il n'y a pas d'idéologie dans les films de Kubrick ?
Je dirais
peut-être pas.
Dieu merci.
Ah si, Dieu merci.
Dieu merci. Oui, il n'y a pas d'idéologie. Ouais. Kubrick n'est surtout pas un idéologue. Et je crois que finalement, il n'a sans doute pas grand-chose à dire. Enfin, ce qu'on peut dire, de toute façon, n'a pas beaucoup d'intérêt par rapport aux images que l'on peut produire quand on est un artiste.
Il n'a que des choses à montrer.
Il a des choses à montrer. Oui. Et des choses à montrer qui, effectivement, nous appellent nous-mêmes à essayer de nous positionner en temps de crise.
Donc montrer le mal, c'est son projet.
Je ne sais pas si on peut dire montrer le mal. Montrer la catastrophe, montrer les difficultés auxquelles nous sommes confrontés et peut-être évoquer des solutions. Après tout, il me semble, une fois de plus, que Eyes Wide Shut se termine d'une façon positive.
Dans toujours ce rapport de Kubrick avec le nazisme, il avait regardé son confrère Steven Spielberg avec beaucoup d'attention.
Oui.
Notamment, il avait regardé La Liste de Schindler. Et ce film, finalement, ne l'avait pas convaincu. Pour quelle raison ?
Kubrick disait, la liste, c'est 1000 survivants, la Shoah, c'est 6 millions de morts. Je crois qu'effectivement, la liste de Schindler ne montre pas la Shoah.
Mm-hmm.
Bon, je ne sais pas quoi dire, parce que je ne sais pas quel mot utiliser. Peut-être le fils de Saul, qui est, je crois, sorti il y a 4 ans,
oui.
De Laszlo Nemes.
Peut-être
un des premiers films qui nous fait approcher la chambre à gaz. La chambre à gaz et cette boîte noire qui est au cœur du XXe siècle.
Et qu'est-ce qui lui a manqué à Kubrick pour faire ce grand film, de ce grand sujet qui est partout dans ses films, mais qu'il n'a pas affronté directement ?
Je ne sais pas. Il me semble que déjà Docteur Follamour par... Docteur Follamour, en fait, c'est comme un peu les œuvres de Günther Anders. Günther Anders a été un des premiers penseurs, c'était le mari d'Anna Arendt, à rapprocher Hiroshima et Auschwitz. Je crois qu'il faut faire aussi une lecture de Follamour comme, effectivement, ce que je décrivais tout à l'heure, ce monde extrêmement procédurier où il n'y a plus de vision morale de la finalité de nos actes. C'est ce qui a permis l'extermination.
Merci beaucoup Philippe Fraisse d'être venu aujourd'hui nous parler de votre vision de ce cinéaste. Je rappelle votre livre Le cinéma au bord du monde, il faut le lire, une approche de Stanley Kubrick, c'est son sous-titre, il est disponible chez Gallimard dans la collection L'Infini. Tout de suite, la chronique.
La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Chronique que nous propose aujourd'hui Maïalen Berasategui. Bonjour à vous Maïalen.
Bonjour.
Alors aujourd'hui vous revenez sur l'adaptation de Shining de Stephen King par Stanley Kubrick. Comment est-ce que Kubrick s'est approprié le roman ?
Alors au dire de Stephen King, pas bien. Stephen King a détesté
Évidemment,
l'adaptation.
Il n'y a pas
Kubrick.
Beaucoup d'écrivains qui aiment les adaptations de leurs œuvres.
Mais là on en arrive à un stade de détestation assez élevé, c'est-à-dire que King trouve que c'est très éloigné du livre, mais surtout que c'est très très misogyne. En fait, une des grosses différences entre le livre et le film, c'est l'état mental du personnage du père. Dans le roman, c'est très clair que c'est que l'hôtel est hanté et que c'est le fait d'être dans l'hôtel qui va faire que le père va basculer dans la folie. Et dans le film, c'est plutôt sa propre psychose qui est mise en scène et qui est révélée à la faveur du contexte, et c'est ce qui fait de ce qui relie Shining à une réflexion beaucoup plus large sur l'autorité, les institutions, les rapports de pouvoir, etc.
Alors, est-ce que Kubrick n'est pas probablement le seul à prendre ses distances avec le texte qu'il adapte? On se doute qu'il n'est pas le seul à prendre ces distances-là.
Mais c'est très difficile dans des scénarios d'horreur de choisir ce qu'on va mettre en scène de manière visuelle, et ça implique souvent de faire des choix. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on trouve les mêmes débats pour ce qui est devenu un classique du film d'horreur psychologique. C'est un film de 61 que je vous conseille vivement et qui s'appelle The Innocents de Jack Clayton. Donc c'est pareil, on a une maison, des enfants confrontés à des phénomènes paranormaux et une gouvernante dont on ne sait pas si elle n'est pas un peu en train de tout imaginer. Ce film est une adaptation du Tour d'écrou d'Henry James, et Henry James a choisi de tout laisser ouvert en fait. Et comme pour The Shining, au départ le scénario penchait pour un surnaturel qui existe. Clayton a fait réécrire le scénario par Truman Capote parce qu'il voulait que ce soit la gouvernante qui imagine tout, et du coup ça penche beaucoup plus vers là. En revanche, le traitement des enfants acteurs est très différent. Kubrick, il choisit de donner des répliques très très courtes à l'acteur qui joue Danny, et Clayton, il choisit au contraire de beaucoup faire parler les enfants, parce que pour lui, ça fait partie de ce qui rend la chose inquiétante.
Alors pourquoi justement les enfants occupent une telle place dans ce genre du cinéma d'horreur, Mayalen?
Aujourd'hui, on associe ça au cinéma d'horreur et au fantastique, mais les enfants avec des pouvoirs paranormaux ou qui ont accès au sacré, c'est quelque chose de beaucoup plus ancien. Des victimes sacrificielles qui sont des enfants, des prêcheurs qui sont des enfants, des miraculés qui sont des enfants ou des enfants qui assistent à des apparitions. Il y en a énormément dans le christianisme. Aux États-Unis, il y a une surcouche qui est les procès des sorcières de Salem, où, au cours duquel des enfants qui ont été initiés à la divination accusent des adultes de sorcellerie. Et donc, même s'ils sont beaucoup moins nombreux que dans les films d'horreur lambda, ces enfants-là, on les retrouve aussi au cinéma. 6 ans avant The Innocents, il y a eu un film qui s'appelait Le Miracle de Marcelin, Marcelino Panivino, pour ceux qui connaissent.
Vous le faites bien.
Ouais, ça a eu un succès international, ce truc. Et ça raconte l'histoire d'un orphelin qui est élevé par des moines, mais il est en lien avec Jésus. C'est ça son pouvoir, et Jésus se décroche de la croix et lui parle. Et qu'on décide d'utiliser les enfants soit comme figure de l'innocence, soit comme figure du mal, ou que le sujet du film ce soit de savoir de quel côté ils penchent, finalement, c'est juste parce que c'est une figure d'altérité de plus en plus importante dans notre société. Et c'est la possibilité que les enfants aient un pouvoir spirituel ou métaphysique est tellement transgressive que dans beaucoup de films ou de séries, je pense au Labyrinthe de Pan, je pense à Les Autres ou même à Stranger Things, l'action a très souvent lieu dans le passé, comme s'il fallait quelque part une séparation du temps de l'action pour mieux accepter la possibilité du surnaturel.
Bon, vous qui êtes spécialiste de la comtesse de Ségur, ça nous fait un peu peur là, tout ce que vous nous racontez sur les enfants. Merci beaucoup Mayalen Berasategui.
Je vous prie.
On retrouve votre signature dans les colonnes du nouveau magazine littéraire. C'est la Compagnie des œuvres, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière et Pierre Faucillon. Demain, ce sera le dernier moment de notre semaine consacrée à Stanley Kubrick. On parlera de musique, on parlera de Shining. De nouveau, vous écouterez Mayalen Berasategui, j'en suis sûr. On parlera aussi d'Eyes Wide Shut et de la question de la solitude des personnages de Stanley Kubrick. C'est Eric Marty qui abordera cette dernière question. Et pour le reste, nous serons avec Brigitte Gauthier et Thierry Jousse.